Bonjour et bienvenue pour le DC Podcasters Review numéro 32. Aujourd'hui, on va vous parler de comics VO et VF avec la sortie de Gardien Terre 4, Batman The Judge Dredd et Doomsday Clock numéro 1. Je suis Watchful et vous écoutez le DC Podcasters Review numéro 32. Avec moi, notre rédactrice en chef, Harley.
Salut.
Notre dissident, MF.
Hello.
Et notre newser qui s'adore, Sledgy.
Salut.
On a aussi en invité Urban versus Panini 10.
Salut.
Ah bah oui, alors il est très content d'être avec nous, ça se voit, ça s'entend.
Non, je suis juste timide, c'est tout. Hein. Enfin...
Ah bah voilà, fallait pas rougir. Ça va bien les gens?
Oui.
Ouais.
Oh bordel, maintenant je suis surpris qu'il y ait des réponses. Bon, on va commencer avec les comics VF, avec certainement, à mes yeux, la grosse sortie VF, Les Gardiens de la Terre 4, un comics qui recueille l'ensemble de l'univers Charlton, intégré chez DC avec Crisis on Infinite Earths. Ce sont des épisodes qui ont été publiés bien avant, à l'époque chez Charlton Comics, avec des personnages comme Captain Atom, Blue Beetle et The Question. Ce sont un peu des classiques, et c'est généralement écrit et dessiné par Steve Ditko, qu'on ne présente pas vraiment. Harley, t'en as lu un bon morceau?
Ouais, j'ai commencé à lire, je crois que j'en suis à la moitié à peu près, mais j'ai beaucoup de mal.
Et pourquoi?
C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Et je le lis parce que je sais que c'est très intéressant, ça a inspiré beaucoup de récits qui ont suivi. Mais
Watchmen,
ouais, Watchmen. Mais du coup, je trouve que, enfin, c'est pas un style qui me parle. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à avancer. Et si tu veux, je lis un petit peu, puis après, je vais lire d'autres choses et je reviens dessus. Donc, mais j'en suis qu'à la moitié. Voilà. Mais c'est bien, mais faut aimer le style, et pour l'instant, j'ai du mal. L'histoire est bien, mais le style visuel, j'ai un petit peu de mal, quoi.
Eve, tu connais Steve Ditko, tu connais bien le scénariste et dessinateur. Est-ce que t'as déjà lu, ou alors qu'est-ce que t'en attends?
Non, j'ai lu, et notamment parce que je suis un gros fan de The Question. Le reste, au niveau des Action Heroes, c'était autre chose. C'est un récit qui est vraiment intéressant, et je pense que c'est un volume qui peut être pertinent de se procurer si on souhaite vraiment rentrer en plein Silver Age total des comics et en prendre un petit peu plein la gueule. Après, c'est pas non plus un récit pour tout public. Les dessins peuvent heurter et peuvent aussi montrer des personnages vraiment très second couteau actuellement, qui intéressent plus grand monde. Moi, je salue Urban en tout cas de publier ça, parce que vraiment le personnage de The Question est vraiment, enfin, un des persos les plus intéressants que je trouve chez DC, et quand il est comme ça mis au goût du jour, il est même sur la cover, donc c'est cool. Donc voilà, un achat intéressant en tout cas si vous êtes passionné, si vous voulez être un petit peu dépaysé aussi.
Alors, pour en avoir lu un bon morceau, je dirais surtout qu'en fait, l'édition Urban, même si, justement, comme tu dis, l'initiative est à saluer, Les Gardiens de Terre 4, c'est les héros du Charlton, c'est vraiment très, très ancien, ça se voit dans le style, mais ça n'empêche qu'il y a une grosse dynamique dans la mise en page, dans la mise en scène, et c'est ce qui fait toute la force de Steve Ditko, en plus d'une écriture assez mature. Tu dis que c'est assez choquant sur certains aspects, et à première vue, en fait, quand tu dis choquant, je pense à violence. Sauf qu'en fait, la violence, elle est présente, mais c'est plus une violence psychologique qu'une violence physique, et ça donne une vraie force aux histoires. Pour moi, à mes yeux, il y a surtout deux gros défauts, alors que c'était une sortie que j'attendais énormément. C'est de un, la traduction qui ridiculise un peu le récit et qui réduit la force de l'histoire, et merde, je sais plus ce que j'allais dire. La traduction et le format qui est très épais, très lourd. C'est difficile à lire et à enchaîner les histoires les unes après les autres, parce que c'est déjà très, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de textes, Et c'est une édition massive, en fait. Et c'est ça qui est aussi un peu gênant, de mélanger aussi ces histoires. C'est aussi compréhensible parce que les histoires se suivaient et étaient découpées épisode par épisode, mais il aurait peut-être mieux valu de séparer un personnage et un autre. Par contre, après, ça aurait été encore un risque supplémentaire pour l'éditeur. Question vente.
Après, ça reste un énorme, un pavé intéressant pour un prix plutôt attrayant aussi. Franchement, pour les curieux, pourquoi pas. Effectivement, ensuite, au niveau de la trad et tous ces problèmes-là, ça a quelque chose de qui peut gêner, mais sachant que ce sera jamais, un lecteur VO peut-être aura toutes les subtilités. Pour un lecteur VF, qu'on ait les Gardiens de Terre 4 en VF, ça reste quelque chose de super bien. Et Steve Ditko, c'est quand même gage de qualité.
Ah, c'est sûr. C'était juste une mise en garde par rapport à l'édition et à l'idée que je me faisais. On va enchaîner avec une sortie un peu plus mainstream. Wonder Woman Rebirth tome 2, scénarisé par Greg Rucka et qui reprend l'arc dessiné par Liam Sharp. Urban, tu voulais en parler ?
Ouais. Alors, c'est un arc déjà que, sur le coup, j'avais beaucoup aimé. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Et vous en avez pensé quoi?
Arlène?
Allô?
Oui, c'est très beau.
Ah d'accord, c'est tout.
non, c'est très beau, mais je trouve que Greg Rucka nous habitue à mieux. Et je suis un petit peu fâchée avec ce qu'il a fait là sur Wonder Woman, en fait.
Ah bon? Ouais, pourquoi? Parce que tu compares à quoi pour trouver ça moins bien?
Mais par rapport à ce qu'il avait fait avant, je sais pas, je sais pas. En fait, quand j'ai vu qu'il arrivait sur le titre, je me suis dit, ah, trop bien! Et je sais pas. La liaison entre New 52 et Rebirth est bien trouvée, c'est bien exploité, c'est bien écrit, mais je trouve qu'il manque quelque chose, en fait. Il n'y a pas la singularité qui faisait qu'on s'accrochait de suite au personnage avant, avec son écriture. Mais après, ça reste très plaisant à lire, hein, mais je suis un petit peu fâchée après lui, quoi.
Non, mais je suis un peu d'accord. Oui, vas-y, je l'ai dit.
Ouais. Sur son run dans les années 2000 sur Wonder Woman, il utilise les mêmes thèmes que là sur le Rebirth, sauf qu'il est beaucoup moins pertinent, que ce soit dans celui-là ou dans la partie avec Nicolas Scott. Genre, il se répète et en plus, il y a moins d'impact qu'à l'époque. Quoi.
Donc, ouais, c'est le risque.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu... si t'as pas lu le Greg Rucka des années 2000... Peut-être que ça vaut le coup, mais sinon c'est pas. Fallait faire un autre perso, quoi.
Bon, je partage un peu le regard de Harley là-dessus. C'est qu'en fait, dans son run des années 2000, j'avais l'impression qu'il développait un univers autour duquel se concentrait Wonder Woman. Alors que là, en fait, d'un tome à l'autre, t'as l'impression que c'est un one shot, en fait, un graphic novel, un autre et un autre et un autre. T'as pas vraiment d'univers construit autour, du moins pas avec ce tome 2. Par la suite, au final, je me rends compte que avec le temps, je perds un peu le souvenir positif que j'avais à lire le Greg Rucka en VO, et je me dis qu'au final, ça perd son effet. Là par contre, je vais peut-être m'attirer les foudres. Là où Azzarello, justement, ça donnait, ça marquait le souvenir d'une mythologie réinventée. C'était marquant. MF.
Là, je te rejoins en fait. Je vais rebondir juste sur ce que tu dis sur Azzarello. Quitte à m'attirer aussi quelques foudres, je trouve que le run d'Azzarello avec Cliff Chiang a foutu une grosse baffe en fait à tout le monde. Et on se disait, oui, enfin, Wonder Woman à un moment c'était identifier Rucka. Et le run d'Azzarello a un petit peu extirpé le personnage de cet auteur qui a tant fait de bien à Wonder Woman. Et je suis en droit de dire aussi que finalement il y a une espèce de. Il y a eu ce souci en fait, je pense, entre Azzarello et Rucka, c'est qu'il y a eu Meredith Finch entre les deux. Et peut-être que Rucka a voulu revenir à des fondamentaux.
Non, mais c'est exactement ce que je pense, hein. C'est juste ça.
Ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que il y a eu quelqu'un qui a voulu assassiner le run de Azzarello dans les New 52. Il s'appelle, c'est David Finch, le couple Finch, quoi. Et je pense que Rucka a juste essayé de revenir à des fondamentaux. Et en fait, c'est ça qu'on a dans Wonder Woman Rebirth tome 2. Et je pense que c'est peut-être peu, je vais pas dire, tu vois, peu, il n'y a pas beaucoup de prise de risque, mais en tout cas, ce qu'il a fait, on sait en tout cas remettre les points sur les i, et en tout cas on peut pas leur blâmer pour ça, quoi. Voilà.
C'est sûr qu'en fait, quand son inscription dans la continuité et la comparaison avec ce qui a été fait avant a fait qu'il a été autant valorisé. Après, c'est vrai qu'en dehors de cet aspect de continuité, c'est pas un souvenir mémorable, mais c'est un bon moment, j'ai envie de dire. Les Wonder Woman de Ruka, question de Wonder Woman Rebirth, j'avais largement préféré les origines à ce tome-là, mais ça reste une bonne histoire. On va poursuivre avec une autre sortie librairie, Batman Judge Dredd tome 1, avec Alan Grant et John Wagner au scénario, et avec au dessin notamment Simon Beasley. Harley, je sais que t'es une accro à tout cet aspect lobo, à cet aspect lobo. Bah oui, parce que Simon Beasley, bien sûr.
Bah oui, mais oui. Et puis parce qu'il y a lobo aussi, de toute façon.
Ah bah c'est ça, je l'avais vu.
Ouais, mais c'est... Je vais le dire de suite, c'est pas à mettre entre toutes les mains, ça c'est clair. Parce que c'est pas un récit qui est d'une tendresse folle. Mais je trouve que...
Avec Josh Reyes.
Oui, ben justement, je trouve que on retrouve un côté très très sombre et très dur de Batman qui se marie très bien avec Judge Dredd, et voir le parallèle entre Mega City et Gotham City avec les méchants d'une dimension qui viennent dans l'autre dimension, je trouve que c'est très très bien, et je trouve que c'est super qu'Urban le publie et mette tout dans le même tome. Je trouve ça vraiment très bien. Ben, donc moi je suis ravie, mais c'est vrai que c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde par contre, parce que c'est très violent, c'est graphique, il y a beaucoup de personnages qui sont pas très habillés, et ça peut choquer certains. Mais voilà, c'est vrai que c'est des univers que j'aime beaucoup, donc ça me plaît. Et je vais juste faire une petite parenthèse. Le relire maintenant, ça fait drôle parce qu'on est en plein Dark Knight Metal, et en fait, quand on regarde Judge Death et les Juges Noirs qui a à Mega City, en fait, on se rend compte que c'est un petit peu Merciless et un peu The Batman Who Loves. Physiquement, c'est les villes Batman, c'est de là, ils y correspondent. Et du coup, je suis un petit peu en colère contre Capullo et Snyder parce que le design que je trouvais cool et que, en fait, du coup, c'est complètement pompé. Donc, ça m'a un petit peu agacé ça aussi. Mais voilà, c'est fini.
Non, mais c'est vrai que l'aspect The Batman Who Loves, t'as l'impression que... Enfin, tu savais qu'il y avait un lien, une grosse référence ou alors un gros pompage, et tu savais pas vraiment d'où. Et c'est vrai que quand j'ai feuilleté ça et que j'ai croisé Josh Dez, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il
a ça. Sadomaso.
Ouais, c'est vraiment le même. Il a vraiment le sourire du Joker, les dents de monstre, les doigts crochus, les yeux qui sont sous le casque. C'est le même, quoi. Si ce n'est que c'est un esprit et qu'il prend possession des squelettes. Mais c'est impressionnant, quoi.
MF, ça te rappelle des souvenirs? Tu aimes?
J'aime bien, ça me rappelait à l'époque certaines variations du Hellraiser de Clive Barker, en fait, sur certains points, ses cordes un peu décharnées, zombies et tout. Moi qui fais les reviews en plus écrites de Dark Knight Metal, c'est vrai que Harley marque un point. En tout cas, il y a vraiment une grosse similitude avec ses récits. En tout cas, c'est vraiment super intéressant à lire. C'est passionnant, mais à réserver pour un public ultra averti. C'est quand même pas à l'époque.
Ouais, je sais pas quel âge ils ont mis un petit peu Urban sur les recommandations, mais je pense que s'ils ont mis 12, ça reste quand même très très léger, quoi.
Je me souviens d'avoir été à l'âge de 8, 9 ans, peut-être 10 ans, je sais pas, à avoir acheté en fait le Batman Lobo, qui en fait avec Judge Dredd dedans, de chez Semic, et c'était marqué juste en fait tout en bas pour public averti. Mais j'avais juste 10 ans, quoi. J'ai lu le truc, j'étais voilà, ça fait de moi un monstre psychopathe, donc vous voyez, c'est terrible. Donc faites attention en tout cas à qui vous proposez cette lecture.
Mais qu'est-ce qui t'a choqué en fait? C'est le dessin de Simon Beasley ou alors c'est le contexte, c'est l'histoire?
Ah non, c'est surtout l'ultra-violence, enfin le dessin, etc. Mais le contexte et l'histoire font un récit intéressant, tout comme je pouvais lire à l'époque Curse of the Spawn ou Spawn, des trucs qui étaient vraiment dégueulasses. Mais c'est un contexte vraiment où t'as deux fortes entités qui se rencontrent, Batman Judge Dredd, et c'est Oui, ça, c'est un récit un petit peu gore, ultra violent, et voilà, c'est ça peut être drôle parce qu'il y a Lobo, voilà, c'est un récit quand même viscéral.
Urban, t'as pu le lire ou pas?
Oh non, je suis beaucoup VO plutôt en ce moment.
Ok. On va reprendre avec un récit complet Batman sur les Teen Titans avec Ben Percy au scénario, John Boy Meyers au dessin des premiers numéros, suivi de Coy Pham qui reprendra la suite des dessins des numéros suivants. C'est une série qui va revisiter les Teen Titans avec Damian Wayne à la tête, en tant que Robin, et qui va tenter de reconstruire une équipe en tant que cadeau d'anniversaire. Urban, qu'est-ce que t'en as pensé de cet album?
Eh ben, c'était un album assez court. Déjà, c'est pas mal pour le prix, 7 numéros. Après, globalement, niveau scénario, c'est assez classique. Mais après, je dirais surtout pour les personnages qui c'est que c'est intéressant à suivre. Sinon, les dessins sont bien et pas grand-chose à dire, peut-être pour les prochains arcs à la limite. Parce que j'ai su un peu en VO et là, je dirais qu'elle a un problème un peu de s'installer.
Pourquoi?
Ben, disons que à un moment, elle va être tie-in de plusieurs events et je trouve que ça ne lui
Ouais.
laisse pas le temps de s'installer, de
Ouais.
faire des arcs trop longs.
Ouais, justement, là, l'arc est assez long, justement, je le trouve plutôt épais comme volume. Ça fait un arc et un petit arc de fin en deux numéros, si je me souviens bien. Donc, disons que l'équipe a le temps de s'installer. Après, ça, c'est vrai. Tu dis que c'est classique, après je dirais que c'est assez... Oui, c'est classique dans l'idée d'installer personnage par personnage, c'est une présentation très basique, mais c'est quand même assez original dans la notion d'intégrer une équipe en fait.
Oui, avec Damien qui force un peu.
Oui, bah, un peu beaucoup. Après c'est aussi une sorte de suite, on pourrait dire, de Robin Son of Batman, par le lien avec justement Damian et
Goliath.
ses liens familiaux. Sledgy, qu'est-ce qu'on avait pensé, toi?
J'étais très intrigué par le fait de voir Damian en chef d'équipe des Titans. Déjà, j'étais content qu'il fasse vieillir le personnage. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez DC. C'est que les personnages avaient tendance à vieillir. On avait vu Dick Grayson grandir, et puis là, on voit Damian enfin avoir 13 ans, quoi. Du coup,
Il
je
avait
suis pas.
quel
Hein, pardon?
âge lors de sa première apparition?
Alors, je sais plus exactement, ça devait
Il
être
avait 8 ou
8,
9
9.
ans.
Ouais,
Ouais.
exactement, je pensais ça. Et du coup, là, je le trouve plus intéressant qu'avant. J'ai eu beaucoup de mal au début, comme beaucoup de gens. Et là, en chef d'équipe des Titans, je trouve très bien. Il y a des bonnes dynamiques avec Kid Flash et avec Beast Boy. Après, l'histoire en elle-même, c'est vrai qu'elle est pas... Enfin, sans Damian, elle n'existe pas de toute façon. Elle est assez oubliable au final, mais ça reste quand même un bon moment et c'est très bien dessiné.
Ouais, bah, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais disons qu'en fait, avec l'arrivée de Coy Pham, arrivé au numéro 3 ou 4, j'ai eu beaucoup plus de mal, je trouvais le tout beaucoup plus classique, là où justement,
Plus
le
terne.
dessinateur précédent a donné une sorte de d'âme beaucoup plus... Une sorte de... Bah, une singularité qu'on ne retrouve plus après, en fait, quelque
Ouais.
chose de différent.
Meyers avait son style, son ambiance, et c'est lui qui avait designé les persos en plus, et c'est vrai que c'est hyper regrettable ce qui s'est passé, le fait qu'il ne se soit pas entendu avec les éditeurs, c'est moche. Mais après, je trouve que Coy Pham sauve un peu les meubles, quoi. Ça aurait pu être pire que ça.
Oui, c'est sûr. Harley, tu t'as pu le lire ou pas, les Teen Titans?
Non.
Ok, tant pis. Sinon, Sledgy, c'en est où Strasbourg?
Oula, on est en train de perdre 2-0.
Ah bah, on peut dire que c'est la saucisse.
Exactement, mais c'est pas grave. Au moins les gens se tairont dans la rue.
On va passer aux comics VO avec l'événement de cette année, parce que c'est non, l'événement de cette année, ce n'est pas Metal, c'est Doomsday Clock. Plutôt l'événement de l'année prochaine, c'est ça?
Ouais.
Donc avec Doomsday Clock, scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank, qui voit le retour des Watchmen avec une arrivée probable, fortement suggérée, peut-être même concrétisée, on pourrait dire maintenant, des Watchmen chez DC ou des DC chez Watchmen, on ne sait plus vraiment. Harley, tu voulais en toucher mot?
Ouais. Non, mais ce podcast qui va être affreux, tout le monde va croire que je suis en colère contre tout. Mais
non, mais c'est pas grave, je l'ai fait exprès là. Non, parce qu'en fait, je vois la vie de Harley avant qu'elle le donne.
Ouais, c'est fini, je te le donnerai plus avant, c'est fini. Le numéro 1 est sympa, mais après tout, le teasing qu'on s'est mangé dans la gueule, alors c'est ça parce que j'ai suivi toutes les news et tout ça aussi, avec tout le teasing qu'on s'est mangé dans la gueule, toutes les pubs qu'il y a dans chaque single qu'on lit, il y a toujours une page, Doomsday Clock, Doomsday Clock, je me suis dit, mais ça va être un événement de ouf, c'est les Watchmen et tout. Ben en fait, non. Voilà, le premier numéro, c'est... Alors, c'est sûr que c'est une introduction, donc c'est compliqué, faut revenir dans l'univers, tout ça, mais... je sais pas, le nouveau Rorschach, là, j'ai jamais réussi à me dire. Je trouve que c'est étrange. C'est comme si on avait un retournement de veste par rapport à ce qu'on a lu avant. C'est... Je sais pas trop ce que veut faire Geoff Johns. Et puis, du coup, on part dans une histoire, et puis à la fin, pouf, on a Superman qui arrive en plein milieu. Alors, oui, on sait que c'est lié, mais... C'est pas ma cam, quoi. Voilà. Donc, j'espère que la suite sera mieux. Mais honnêtement, pour moi, c'est un petit peu mal parti. Voilà.
Bon, bah, Urban nous a quittés, c'est pas grave, on le retrouvera plus tard. MF, je sais que tu meurs d'envie d'en parler. Doomsday Clock, alors.
Oui. Bah oui. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Harley.
Oui, attends, tu fais pas ta drama queen, hein, s'il te plaît.
Je peux parler oui, très bien. oui, donc en fait, le premier truc, c'est... je pense que les gens attendaient trop d'un premier numéro qui, effectivement, se révèle introductif. Deuxièmement, en fait, dans ta review, Watchful, t'as dit, en gros, que Jojo n'avait pas compris Watchmen. Est-ce que t'es au courant d'un certain poème qui a été réutilisé d'une façon étrange? On en a parlé avec Zep. En gros, Geoff Johns est beaucoup plus littéraire qu'on peut le penser et a vraiment bossé son numéro 1. Et en plus, enfin, vraiment, j'ai apprécié la fluidité du récit, le côté, effectivement, on est dans un monde vraiment apocalyptique, et la transition justement vers l'histoire de Superman, je ne la trouve absolument pas. Enfin, Harley a l'air de la trouver un petit peu, je sais pas, rude ou brusque. Je trouve qu'elle est, au contraire, très smooth. En fait, on navigue en fait, enfin, d'une case. Qui est pas forcément anodine, et on arrive tout de suite sur l'histoire de Superman qui vit pour la première fois de sa vie un cauchemar. Je trouve ça fascinant, enfin j'ai adoré, et pour le coup, enfin un gros GG à Geoff Johns et Gary Frank qui ont plutôt réussi à livrer un récit introductif certes, mais extrêmement profond. Et de dire, en tout cas, enfin vis-à-vis de ta review, que Geoff Johns a pas compris Watchmen. Révise un petit peu ton jugement, s'il te plaît, mon cher Watchful.
Alors Zep, il m'en a parlé de ce poème-là, et en fait, c'est vrai que je l'avais pas vu avant de faire la review, et même en sachant que, enfin, en comprenant le sens du poème après, je me suis dit, bah oui, c'est bien, mais ça relève rien du reste, parce qu'au final, il n'y a pas de réel engagement pour le moment. Tout le contexte est passé rapidement en quelques pages pour se focaliser sur le teasing du personnage, introduction de nouveaux personnages et grosse splash page de révélation avant de passer brusquement à Superman. Donc je...
On passe pas brusquement à Superman. Je invite les gens à relire le truc. C'est plus smooth qu'on dit.
Je l'ai relu, moi je trouve que c'est quand même assez brusque, puisqu'on a le truc avec... on a la discussion entre les Watchmen là, qui reviennent et tout ça, machin. On a la révélation sur leur but, qui ils veulent chercher, pourquoi ils veulent le chercher, tout ça. Et puis d'un coup, alors oui, le fait que ce soit introduit par le premier cauchemar de Superman, ça je te l'accorde, c'est une bonne idée. Mais je trouve que c'est quand même très brusque, quoi. T'as la révélation et juste après tu passes sur l'enfance de Superman. Et là je trouve que c'était un petit peu, enfin moi ça m'a perturbée, c'était comme si il fallait absolument le présenter maintenant en fait, au lieu de rester focalisé vraiment sur le dialogue qui était très riche entre les personnages qu'on avait avant. Et c'est peut-être ça qui m'a perturbée en fait, c'est que le dialogue était intéressant, mais il nous colle Superman, genre, histoire de dire, non, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment lié au présent, quoi. Moi, je trouve ça assez rude, ouais.
Je suis de retour.
Ah bah voilà, c'est bien, il l'annonce. Et pour ce qui est de, justement de l'arrivée de Superman, en fait, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça brut. Mais je me suis dit, pourquoi, au final, ne pas avoir fait comme ils font là avec la marche de Rorschach dans le couloir de la prison, quelque chose de séquentiel, de progressif, pour faire une sorte de, même si tu sais, le genre de zoom sur un détail et un dézoom pour justement changer de choses sans vraiment savoir si c'est le même univers ou non. C'est justement, ça aurait peut-être accentué même l'intrigue sans jouer sur la carte du teaser. Et en même temps, en jouant sur la carte de l'esthétique du Watchmen d'origine.
Il
y avait peut-être plus assez de place.
Ouais, il pouvait pas en rajouter une. Par contre, justement, pour ce que on n'a pas parlé, mais l'esthétique de Gary Frank, je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que c'est vraiment très beau.
Oui, ça c'est sûr.
Bah, c'est magnifique, c'est absolument... Gary Frank, j'aime beaucoup déjà dès le départ, mais là, il se surpasse clairement.
Bah après, est-ce qu'il va tenir les 12 numéros ?
Bah oui, mais vu le temps sur lequel il prépare l'événement, c'est sûr que... Ou alors ils vont repousser la date de sortie, mais ils ne seront pas quelque chose de torché à la Rose Effect. Puis personne, Sledge, tu l'avais lu ?
J'ai bien aimé la petite pique sur Rose Effect.
Oui, bah bien sûr. Sledgy, t'as pu lire Doomsday Clock ?
Oui. Moi, j'attends un peu la suite. Je salue le travail de Geoff Johns de reprendre un peu le style d'Alan Moore, même si je le trouve largement moins pertinent, notamment avec Rorschach. Rorschach ou Rorschach, je sais pas comment.
Rorschach.
On va dire Rorschach alors. Ouais, je le trouve moins pertinent sur ce personnage-là, que je trouve un peu. Enfin, j'étais un peu dégoûté forcément de voir que le mec qui avait repris un peu le flambeau était a priori un pauvre con quand même. Enfin, il a pas choisi le même camp que l'autre. Ce que je trouve un peu idiot, mais j'attends de voir où est-ce qu'il nous emmène avec ça. Et en fait, c'est surtout, enfin, globalement, c'est ça. C'est j'attends de voir où est-ce que Geoff Johns veut en venir avec tout ce bordel. Et j'attends de voir la vraie confrontation avec Superman. Et sinon, je salue juste le fait de bien reprendre l'esprit de Watchmen sans pour autant l'atteindre, malheureusement.
Par la suite, j'aimerais bien qu'il puisse atteindre pas la subtilité d'Alan Moore, mais essayer de l'atteindre un peu plus que ce qu'il a pu donner avec ce premier numéro.
Après, c'est bien aussi justement qu'il ait une plume différente, parce que si on se retrouve avec du sous-Alan Moore, ce serait pas cool. Faut quand même que Geoff Johns garde son identité, même s'il veut rendre hommage, tout ça. Il faut qu'il garde son identité, faut pas qu'il se perde dans Alan Moore, en fait. Donc moi, ça m'a pas choqué, tu vois.
Je veux pas partir dans un débat à la Geoff Johns, mais pour moi, Geoff Johns, c'est un peu l'ombre de lui-même depuis un bon moment, en tant que scénariste.
Ouais, mais de là à dire qu'il a rien compris à Watchmen, je pense que c'est un peu méchant.
Oui, je suis allé un peu fort, si tu veux que je l'assume. Oui, j'ai été un peu fort là-dessus, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue à la fin, avec le manque d'engagement du numéro, et ça m'a vraiment énervé, en fait, le manque d'engagement du numéro.
Que ça soit un numéro très introductif.
Oui, c'est un numéro très introductif, mais on s'y attendait, ça, c'est forcé. Par contre, en fait, Geoff Johns, son style actuel, j'ai l'impression que c'est du teasing pour du teasing pour du teasing pour du teasing. Et c'est un peu énervant.
On va arriver à un moment où il va tout dire.
Oui,
même
oui.
Même si je sens qu'il fait peut-être un peu de teasing, vu que l'event, Doomsday Clock, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça soit encore un peu du teasing?
Non, je pense, c'est un événement
en
soi.
Il va
pas nous la faire à la Trinity War, tu vois.
Après, vu que c'est sur 12 numéros, est-ce qu'il va teaser genre les 6 premiers numéros et nous livrer l'histoire complète sur la fin ? Ça, c'est possible.
Ou alors, il reprend le schéma de Watchmen, c'est vrai que le premier numéro était pas... Il te balance pas des trucs de ouf dès le début, quoi.
Enfin, aussi,
quand même. C'est bien écrit, mais je veux dire, c'est pas... C'est aussi introductif, le numéro 1.
Oui,
après,
mais c'est forcé.
Obligé, le numéro 1.
C'est forcé que ce soit introductif, mais t'avais des phrases qui étaient fortes dès le départ,
oui, oui,
et un
oui.
lancement de l'intrigue et une progression directe. Alors que là, on a juste libération, révélation, fin. Donc
révélation est pas super bien en plus. Mais après, c'est parce que il copie le style d'Alan Moore, donc il fait quelque part quand même du sous Alan Moore. Hein. Mais
alors,
dans
je suis pas d'accord du tout. Bah, non, pour moi, ça reste.
Non, c'est pas du copiage. On est d'accord.
Il copie l'esthétique, mais il reste sur un style Geoff Johns qui n'est pas vraiment Geoff Johns au final. Donc,
il écrit pas comme ça d'habitude. Il n'utilise pas ce système-là pour raconter son histoire. Il garde ses thèmes, il garde ce qu'il a envie de raconter, mais il le fout dans du Alan Moore qui marche moins bien que quand c'est Alan Moore qui l'écrit. Enfin, je veux dire, Rorschach, c'est quand même largement moins bien quand c'est Geoff Johns qui essaye de faire la philosophie de ce personnage.
J'ai l'impression qu'en fait, on est tous d'accord, mais on l'exprime autrement.
Ouais, c'est possible.
Ouais.
après, pour Rorschach, c'est normal, vu que c'est pas... On peut spoiler, en fait.
Oui, oui.
C'est vu que c'est pas la même personne. Ça peut être normal qu'il ait pas la même logique. Faut encore voir qu'est-ce qu'il est exactement.
Ah, mais tu vois, Alan Moore, ce qui est bien avec Watchmen, c'est que tu peux prendre à partie, les deux sont pertinents. Et là, il est moins pertinent, quoi. Rorschach est pas pertinent quand il parle... pas autant que quand c'est Alan Moore qui écrit, ou quand il écrit Ozymandias, ou quand il écrit Dr. Manhattan. Là, c'est juste moins inspirant, quoi. C'est pour moi, en tout cas.
Moi, je suis d'accord. On va passer à la suite avec l'arrivée de Christopher Priest sur Justice League, avec Justice League numéro 34, dessiné par Pete Woods. Puis si c'était... Non, c'était Zeppeli qui avait parlé de Pete Woods. Mais c'est vrai que son style a complètement changé par rapport à ce qu'on a pu voir lorsqu'il était chez DC avant. Et c'est quelque chose de très positif de mon côté. Je sais pas si les autres vous êtes d'accord, Urban?
Oh, ça va. Je suis assez... Tant que c'est correct, tant que c'est lisible, ça me va. Donc ça va pour moi.
Tant que c'est lisible, ça va. T'es très tolérant, toi.
Oui, on me dit souvent.
Ok. Harley, t'en as pensé quoi de Justice League 34?
C'est sympa.
C'est sympa.
C'est sympa.
T'es très tolérante aussi.
Non, bah après, honnêtement, je me souviens pas du tout de ce que Pete Woods avait fait avant, donc je sais pas...
Amazon Attacks, par exemple.
Je me souviens pas.
C'est normal.
Mais non, après, bon voilà, c'est une histoire que j'aurais voulu voir avant, tu vois. Franchement, le Batman... J'en ai un peu marre de voir le Batman toujours un leader de la Justice League. Et je trouve que là, du coup, le voir merder, c'est bien. Voilà. Il est humain, il a ses faiblesses, et des fois, il merde. Et puis, à trop se reposer sur lui, c'est le caca. Et donc, je trouve que c'est bien. Et j'aurais voulu le voir avant dans Justice League. Voilà. Après, le numéro en lui-même n'est pas exceptionnel.
Mais je comprends pas pourquoi tu aurais voulu le voir avant, en fait.
Non, mais c'est peut-être par rapport aux arcs qu'il y a eu avant. Je sais pas. Après, je suis pas une grande fan du titre Justice League.
Ah, c'est sûr.
Voilà, à cause de ça, justement. Mais voilà, là, je trouvais que c'était chouette et ça m'intéresse peut-être un petit peu plus que les arcs qu'il y avait avant. Après, bon, mes goûts en matière de Justice League sont un petit peu bizarres.
Ah bon? Pourquoi?
J'ai tendance à aimer les histoires que beaucoup n'aiment pas.
Genre,
la tour de Babel.
Beaucoup de monde aime ça.
Identity Crisis, ce serait plus compliqué. Vas-y.
Ouais, non, je vais pas partir sur les crises, mais.
Identity Crisis, c'est différent.
Ouais, c'est l'exemple qui me vient en tête, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais non, machin, c'est trop simple et tout. Mais non, enfin, c'est un truc que j'ai bien aimé.
MF, t'as pu le lire ce numéro?
J'ai pu voir le renouveau de ma Justice League que j'aime. Voilà.
Ah oui, tu t'étais occupé de la review du premier run de Hitch en VF.
que j'avais lu à l'époque en VO, donc j'ai dû me le retaper à ce moment-là et se rendre compte de cette abomination en fait qu'il a copié-collé finalement pendant. Alors il y a eu des petits crossovers par-ci par-là. N'empêche que. Je suis désolé, mais un numéro comme ça, c'est super frais, c'est super intéressant. Christopher Priest, c'est quand même l'homme derrière la réussite totale de Deathstroke. Voilà, Deathstroke, c'est juste génial. Et là, Christopher Priest, en un numéro, il me vend son titre, quoi. Il me donne envie de racheter du Justice League. J'étais vraiment dubitatif au départ, en me disant, est-ce que Priest va réussir à justement m'intéresser à juste une équipe qui finalement est cool mais qui a été dénaturée pendant plus d'un an et ouais il l'a fait et juste pour ça merci Christopher Priest, enfin pour une fois, c'est intéressant. Et je pense pas qu'il faut trop en dire sur ce qui se passe dedans, parce que mais tous les membres de la Ligue, les Lanternes, ce qui sont passionnants à suivre dedans, les Batman, effectivement, qui est là, mais qui merde, effectivement. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans ce récit. Et j'en veux plus. Et pour le coup, c'est une super équipe créative. Donc voilà, j'en attends beaucoup.
Sledgy, t'as pu le lire ou pas?
Ouais. Et bah, je suis assez d'accord avec MF. Enfin, j'étais content qu'il arrive sur le titre après Hitch, et je suis plutôt satisfait. Il se prend moins la tête qu'avec Deathstroke, quand même. C'est une écriture un peu plus, enfin c'est plus simple dans l'écriture. Mais c'est bon, là par contre c'est introductif, mais dans le bon sens du terme aussi. Et il utilise effectivement le fait que Batman fait une connerie à force de trop vouloir tout contrôler et de tout le temps vouloir agir sur tous les coins, quoi. Et du coup c'est quelque chose, c'est vrai, qui est pas assez exploré, et qu'il l'explore bien, et je suis assez content de voir ça, et je suis pressé de voir les prochains numéros, parce qu'il pourrait explorer ça de façon intéressante, quoi. Après, au niveau des dessins, Pitwood, je suis pas spécialement fan, mais ouais, ça fait plaisir de voir du Justice League qui se débrouille bien, quoi. Il a rendu Simon Baz intéressant. Et ça, c'est fort.
Ouais, ça, c'est vrai. Parce que quand j'ai lu ça, quand j'ai lu les premières pages, je me dis, waouh, c'est quand même classe. Et après, je me suis rendu compte, mais merde, c'est Simon Baz. Depuis la création du personnage, j'ai jamais réussi à le trouver un minimum classe, un minimum intéressant. Et là, je me dis, c'est un vrai Green Lantern, en fait. Il l'a présenté comme un vrai Green Lantern, et c'était pas gagné. Donc, rien que pour ça, ce numéro est déjà une réussite. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que, j'ai l'impression qu'en fait, il bénéficie de la comparaison. Dans le sens où, par rapport à Brian Hitch, c'est vrai que c'est énorme. Mais en fait, en tant qu'histoire en elle-même, c'est une histoire de thématique de Justice League intéressante. C'est bon. Après, la grosse révélation, pour moi, c'est Pitwood. Il m'a juste scotché. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est un style, une colorisation qui change complètement, qui donne une identité au titre. Et vous dites que c'est introductif en général. Mais j'ai trouvé que ça allait très vite, en fait. J'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps, plutôt que de passer d'un personnage à un autre et d'accélérer pour arriver à une fin. Par la suite, à mon avis, le rythme va se ralentir pour développer le personnage principal, qu'on ne voit pas plus que ça au final. Donc c'est un numéro très intéressant, et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on va le recommander, même si on le voulait avant dans la Justice League pour certains.
Oui.
Merci Sledgy. Au moins quelqu'un qui suit.
Non, je suis, hein, mais bah, tu l'as dit, donc.
Voilà. C'est parce que j'étais fiche, c'est tout. Je t'ai piqué tes fiches.
Non, mais c'est ça. C'est fini, je le ferai plus.
On va poursuivre avec Mystic You numéro 1, une nouvelle série qui voit le retour de Zatanna dans une sorte d'école de petite magicienne, avec Aliza Quitney au scénario et Michael Norton au dessin. Et t'as trouvé ça assez moche, Harley, non?
Non, j'ai pas trouvé ça moche.
Ah, t'as pas aimé Poudlard?
Si, justement, enfin, c'est honnêtement, bon, en soi, c'est pas transcendant, hein. Mais retrouver tous les personnages version Poudlard dans une école qui... Même, enfin, je l'ai dit dans la review, quand tu vas dans la salle principale, t'as l'impression que c'est la grande salle, quand t'es dans les jardins, il y a les plantes sur les arbres, les cours avec la salle de divination, qui est la salle 11, et la salle 101 dans les deux, il y avait vraiment des similitudes qui se retrouvent, et j'ai adoré ce côté-là. J'ai vraiment adoré ce côté-là. Après, ce qui me gêne, c'est que Alyssa Quitney, elle avait écrit Convergence Batgirl. Et
c'était bien.
Ouais, c'était bien, mais ça tournait un petit peu trop autour de la romance qu'il y avait entre, c'était entre Batgirl et c'était qui je me souviens plus.
Dick.
Non, c'était pas Dick. Justement. Ça c'était Oracle Nightwing, je sais plus. Et du coup, ça virait, enfin, l'intrigue principale passait au second rang par rapport à l'histoire d'amour. Et j'ai l'impression que là, c'est un petit peu ce qui va se passer. On sait qu'il y a une menace, on sait qu'il y a plein de personnages de l'univers dark et magique, comme Faust, Sargon, Mister Enchantress, tout ça qui sont là. Mais dès le premier numéro, tu sais que entre le fils de Faust et Zatanna, il y a une espèce de relation je t'aime moi non plus qui s'installe. Et quand t'es une romancière qui aime le young adult et les romances, bah tu te dis ok, c'est bon, on va quoi. Donc ça me fait un petit peu peur, mais en soi, je suis ravie quand... je suis ravie d'avoir lu ce titre et j'attends le deuxième avec impatience.
On dirait une petite fille qu'on a emmenée à Disney pour la première fois qui est
Non,
toute
mais
contente de voir ses personnages.
au début, j'étais contente de voir qu'il allait y avoir le retour de Zatanna. Le pitch m'intéressait. Et quand j'ai vu les planches qui sont très belles et que vraiment j'avais l'impression d'être à Poudlard, j'étais dedans quoi. Et j'étais vraiment dedans et ça fait plaisir.
Ouais, ça se voit. Je sais pas qui a pu le lire. Urban, c'était toi qui l'avais suggéré, donc je pense que tu l'as lu.
Oui. Bah, j'avoue, j'ai été un peu déçu.
Pourquoi?
Qu'elle allait être dans une école, elle allait être professeure d'une école, mais après, ça allait être plutôt un retour dans le passé avec Zatanna qui apprenait la magie. J'avoue, j'étais un peu déçu.
Bah,
Après,
c'est-à-dire
c'est sûr que ça
que
fait.
l'intro, c'est vraiment pour montrer qu'il y a genre une grosse menace qui va pourrir le monde et tout, et que du coup, faut empêcher que ça arrive. Mais j'avoue que c'était peut-être un petit peu mal introduit. Ouais. Mais
Sinon,
c'était chouette, on voyait
globalement.
Constantine.
Ah bon?
Ouais, quand au début, en fait, elle croit que c'est Constantine et en fait, ça change de personnage et puis après, elle voit que c'est sa prof.
Ah oui.
Ah mais t'es tellement en mode fangirl en fait, c'est fini. En fait, t'aurais dû mettre chef-d'œuvre hein, sur ta review.
Non, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas transcendant, tu vois. Mais c'est un univers qui me parle, donc. Mais c'est bon, j'arrête d'en parler.
T'as plus rien à dire là-dessus, Urban ou?
Après, c'est aussi un des premiers, c'est aussi un des premiers. Ça fait aussi partie de la nouvelle vague qu'on a aussi. Ça fait à peu près la taille du BD maintenant. Ouais, sinon j'ai que ça à dire, les dessins, ça va.
On va passer à autre chose. C'est Ragman par Ray Fox et Inaki Miranda au dessin. C'est le retour de Ragman. Je pense que, enfin, on est très peu à l'attendre, mais on est certain à l'attendre quand même. Le retour de Ragman. C'est, pour ceux qui connaissent pas, une sorte de personnage qui a un manteau constitué d'âme qui rend justice à travers une sorte de vêtement magique sous un ton généralement horrifique.
Ouais, mais pas dans celui-là.
Mais pas dans celui-là. Et je pense que c'est la première chose qui peut déranger. Tu veux en parler? C'est toi qui as fait la foule?
C'est moi. Imaginez, c'est que le personnage en lui-même, c'est pas le même. Et comme tu dis, d'habitude, on a l'habitude de le voir avec le manteau, tout ça. Alors, c'est peut-être old school hein, comme vision. Mais c'était
Ouais.
l'essence du personnage. Et là, on a plus un truc, mais comme Arrow, en fait. C'est un petit peu le même Ragman avec une sorte d'espèce de momie avec ces bandages là qui s'étendent pour capturer les méchants. Mais du coup, c'est très perturbant quoi quand tu le lis et tu sais pas que c'est Ragman, tu peux te poser des questions quand même quoi. Après bon, c'est un numéro magnifique, Inaki Miranda et Eva de la Cruz, ils font du très bon travail. Mais ouais, l'histoire est bateau et le personnage, c'est pas le même, donc c'est très perturbant.
Après, pour un lecteur qui voudrait découvrir le personnage, je sais même pas si on pouvait le conseiller en fait. Mais justement, c'est une nouvelle vision, une nouvelle identité, quelque chose de différent. Au final, c'est pas Ragman en fait. Il a
C'est
de
un nouveau
Ragman
Ragman.
que le nom.
Ouais, voilà, c'est un nouveau Ragman. Après, c'est assez introductif. C'est si tu veux te lancer dessus en tant que débutant, c'est plutôt bien. Mais quand tu connais les anciennes versions, c'est là où ça pêche un peu, quoi.
Et Blue serait là, il nous dirait que c'est pas le même Ragman que dans... Merde, comment il s'appelle? Shadow Pact.
Oui, non, mais s'il
Ah
était
oui.
là, il serait parti complètement en vrille sur le fait que c'est pas du dark et que
Et que c'est nul parce que c'est pas Vertigo.
voilà, c'est ça. Non, mais ouais, c'est. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec Fox. Je sais pas.
Bah, je sais pas non plus, surtout qu'en final, j'ai... Bah, en fait, j'ai l'impression, si, je sais, Ray Fox, il voulait faire du Moon Knight, sauf que Marvel, il voulait pas de lui, du coup, il est resté chez DC et il a changé Ragman.
C'est exactement ça,
Ah.
c'est ce qu'on avait dit dans les commentaires. C'est ce qu'on m'avait dit, comme quoi en fait ça faisait vraiment penser, parce que moi j'avais vu le jumelage un petit peu avec le film Deliver Us from Evil, enfin je crois que c'est Délivre-nous du mal en français,
Ah.
avec le type qui revient de mission avec les esprits qui le suivent, tout ça, bordel, voilà. Et on m'avait dit que l'histoire faisait aussi penser à Moon Knight, et maintenant je rajouterais même que ça fait penser à Witchblade. le relaunch de Witchblade, parce que c'est un petit peu pareil aussi, syndrome post-traumatique, machin, la guerre, voilà.
Urban, tu l'as lu, Ragman?
Oui, au début j'attendais assez, puisque le personnage, j'avais bien aimé quand j'avais lu dans une mini-série avant Infinity Crisis concernant la magie.
Bah c'était Shadow Pact.
Ah non,
c'est Day of Vengeance.
Ah oui, Day of Vengeance. Shadow Pact, c'est juste...
Day of Vengeance, voilà. J'avais bien aimé le perso. Bon, après, c'est sûr que là, c'est... Ouais, ça va, j'ai bien aimé, c'est correct hein, pour l'instant. Après, c'est sûr que penser à d'autres origin stories assez récemment, surtout ceux liés à la guerre.
Oui, bah, et avec le retour du Punisher, j'ai l'impression qu'au final, ça mélange... Enfin, en fait, à la base, Moon Knight, c'est un peu quelque chose en rapport... Quelque chose d'à peu près similaire à Punisher. Et justement, là, Ragman, c'est quelque chose d'à peu près similaire à Moon Knight. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Ça devient en fait un ressassement de clichés différents pour une origin story introductive.
Oui, il avait déjà tous les esprits hein, dans son costume. Ça, c'est pas un truc qu'ils ont inventé cette année.
Oui, oui.
Après,
après t'avais cette notion... Ah, vas-y,
vraiment,
vas-y.
C'est pas vraiment tous les esprits dans le costume, c'est tous les esprits dans l'entité qui est dans la veste. C'est encore
oui,
un truc...
Moi, je pensais pour Moon Knight, oui, dire que ses pouvoirs dans son beau, quelque part en Afrique. Je pense qu'il voulait plus dire par là.
Oui, la façon dont il a les pouvoirs. Après, voilà. Ça, Moon Knight, lui, est juste schizophrène, alors que lui a l'esprit de toutes les personnes dont il peut puiser les qualités. Mais c'est vrai que sinon, au niveau du personnage, au niveau de Rory Reagan, je crois que je suis même pas sûr qu'il ait le même
prénom.
C'est pas, il ressemble pas du tout à ce qu'il était avant, quoi. Enfin, moi, je l'ai pas reconnu en le lisant. Et enfin, j'aime beaucoup le Ragman du Shadow Pact. Et j'avoue que j'étais un peu déçu, quoi, en lisant le début de cette mini-série.
Bah, je pense que c'est le sentiment de tous, et à part Urban qui semble avoir un peu apprécié ce premier numéro. Est-ce que vous êtes partant pour faire une descente aux enfers, en commençant par Superman 36? Merci
non.
Pour les réponses, c'est génial. Bon, on va
non,
commencer.
Non.
Merci MF, c'est vraiment sympa le soutien. Donc Superman 36 avec Peter Tomasi au dessin et Doug Mank au... Non, Peter... Oh putain.
Oula. On se calme, vas-y, on se respecte, vas-y.
je me respecte un peu plus, je retrouve ma race, et Peter Tomasi au scénario et Doug Mank au dessin. C'est la fin d'Imperius Lex, et Imperius Lex qui semble divisé, parce que je me suis pris quelques claques comme quoi je ne devrais pas autant détester, qu'il faudrait que je relativise, mais je dois vous avouer que j'ai du mal.
Mais parce que peut-être que tu es un rageux en fait. Tu ne le sais
peut-être.
Pas, mais c'est ça en fait. Mais finalement, vas-y, toi qui l'as lu, qu'est-ce qu'il y a de si mauvais là-dedans?
Tout.
Ah.
Non, pas tout. Surtout ce dernier numéro en fait qui m'a permis de relativiser sur des situations intéressantes. Par contre, ce qu'il y a de mauvais, c'est Mank, on est très loin de son niveau d'avant. Enfin, j'ai l'impression que c'est une dégringolade. En termes de qualité artistique depuis la New 52 où justement son ancrage s'est épaissi, puis maintenant c'est complètement alternatif, c'est aléatoire dans le sens où parfois t'as un ancrage très prononcé, parfois c'est très fin, il y a des moments où il y a énormément de traits, il y a des moments où c'est très sobre, t'as l'impression que le gars a une double personnalité artistique où justement il fait tout ou rien, et c'est assez...
C'est un peu moche.
Oui, c'est un peu moche. Et ça me fait mal de dire ça de Doogman parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup.
Ce serait donc le Fight Club ou le Patrick Bateman des comics.
J'ai pas compris.
Le Fight Club ou le Patrick Bateman des comics, c'est-à-dire la schizophrénie totale, quoi.
Oui, d'accord, là je comprends mieux.
Et puis surtout, la règle numéro 1, on n'en parle pas.
Du Fight Club, oui, mais de Patrick Bateman, ça va. Que ça.
Après, ce qui va pas tellement, c'est même au niveau du scénario, dans le sens où... J'aime bien l'idée de ramener des personnages peu connus du Silver Age, c'est cool. Au moins leur donner une fonction plutôt que de faire « Eh, c'est des personnages du Silver Age, c'est drôle, ils sont fans de Lex Luthor. » Et Lex Luthor, il veut pas, mais Superman, il voudrait bien. Enfin, il veut pas vraiment, mais Lex Luthor voudrait bien que ce soit Superman. Mais on s'en fout. Enfin, ça fait tellement effet triangle amoureux, mais revisité avec Superman dans un contexte différent. En plus de ça, on retrouve l'équipe Lois Lane en mode je deviens une furie et après ça va, je me combats tellement bien qu'au final Granny Goodness elle veut bien de moi dans son équipe, trop bien. John il va dompter des chiens mais c'est pas grave, c'est sur Apocalypse et puis c'est un gamin, c'est cool les chiens et les gamins. Et Superman pendant ce temps il va se faire poutrer la gueule, il va attendre sa famille pour la, il va attendre de la retrouver avec Lex Luthor. Pour tout ça, what, pour au final, bah oui, non mais franchement c'est oui, c'est bah non, voilà, c'est exactement.
Je me demande déjà, enfin Granny Goodness elle est pas morte en fait déjà.
Oui, non, j'avais même pas pensé.
Dans Mister Miracle, elle est morte.
Mister Miracle.
Bah oui.
Oui, non. Parce, que non. Parce qu'en fait, tu vois, Mister Miracle, justement, tu peux le considérer un petit peu comme à part, parce que tu peux pas vraiment l'inclure dans telle ou telle chose. Donc là-dessus, franchement, c'est même pas encore un défaut à mes yeux.
Ça pourrait être
que ça se passe dans le futur, Mister Miracle.
Oui, oui.
Bah ça, ouais, on sait pas trop dans quelle continuité ça se passe, donc c'est pas important.
Et c'est pas plus mal.
Ouais.
MF, tu voulais dire quoi ?
Ah non, c'est tout. C'est la même chose qu'eux, mais sauf que moi, j'insiste sur le fait que pour moi, ça se passe plutôt en même temps et qu'ils ont mal géré le timing des morts des personnes.
Ouais. Bah, tu vois, même sans ce défaut-là de relever, c'est quelque chose qui me perturbe énormément. Et après, t'as le scénario assez classique du combat final et résolution. Mais la résolution peut amener des idées intéressantes qui ne vont certainement pas être suivies, mais c'était cool au moins de voir ces idées-là sortir légèrement de l'eau pour replonger et ne plus jamais revenir. Arlette, non, tu suis pas Superman, c'est...
Non,
ça, Superman. Ça te ferait trop râler.
Je suis déjà assez en colère comme ça.
Sledgy, t'as pu le lire ou...
Non.
Non, toi non plus, tu veux pas râler.
Je suis trop en colère.
Mais en fait, au final, MF, j'ai l'impression qu'on partage le même avis alors que t'es contre le fait que je sois autant rageux contre Superman en ce moment.
Non, en fait, je suis contre le fait que t'as été autant rageux au père Action Comics.
Ah bah non, mais là c'est Superman, alors que Superman, justement, c'était le titre qui me faisait relativiser Action Comics.
Justement, bah on en parlera un jour, on fera un fight, un podcast fight.
Ah bah là, c'est un peu mal parti, parce qu'autant j'ai pu défoncer aux effects, autant là, le nouvel arc avec Booster Gold, je l'attends un peu impatiemment, mais avec une certaine réserve. Savoir que Dan Gates va dessiner, je suis ultra content.
Bah, j'ai vu les dessins, les previews sont magnifiques. Donc,
ouais, je suis complètement d'accord.
Soyons heureux. Hein, voilà. Ouais. Dan Jurgens est dans la place, mesdames et messieurs. Et tout ce qu'on a dit sur Superman, bah écoutez, oubliez-le. Voilà, ça revient, c'est bien. Voilà. Parfois, c'est moins bien. Mais après, ouais, c'est bien.
Surtout que l'arc prochain risque d'être cool.
Tout à fait. Et on est cool.
Et on va en continuer dans notre descente aux enfers avec Wonder Woman 35, scénarisé par James Robinson. Mais putain, James Robinson, qu'est-ce que tu nous fais ? Et dessiné par Emanuela Lupacino. C'est toi, Urban, qui voulais nous en parler. Et je sais pas si t'as apprécié, mais essaye de nous dire ce que t'en as pensé. Et si t'as aimé, fais-nous relativiser.
Oh, et ben, je sens que c'est compliqué, mais j'avoue que j'avais... Comment expliquer ça ?
C'est de la merde.
Oh. Non, c'est moyen, à la limite. Moyen bon. De là à dire c'est de la merde, en tout cas, ce numéro, ça va, il était bien. Moyen bon.
Pourquoi ? Parce que celui-là, je l'ai pas.
Celui-là, c'est... On revient sur... l'enfance de Jason, le frère caché, hein.
Oui.
Donc, on nous raconte un peu sa vie. Bon, après, c'est sûr que un épisode pour nous raconter sa vie, ça fait un peu abrupt la fin, je trouve. Ça aurait mérité un épisode de plus pour faire le rapport avec Grail, mais non. Là, c'est juste raconter ses origines. C'est bien dessiné. On comprend un peu mieux la psychologie du personnage, même pas trop, mais ouais, on comprend bien la psychologie. Globalement, voilà.
Alors, comme j'ai l'affiche sous les yeux, est-ce que, Harley, tu trouves que c'est bien la suite des événements entre Grail et Darkseid de Darkseid War ?
Je suis en colère. Non, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il veut faire, James Robinson. Déjà, cette histoire, on en avait déjà parlé un podcast, mais du baby Darkseid qui devient l'ado de Darkseid et tout ça, avec Grail qui est sa fille, qui devient sa mère adoptive, tout ça, ça m'a un peu... Ça me passe un peu au-dessus et c'est dommage que ce soit ça qui serve de lien pour que on étudie le parallèle entre Jason et Diana. Et je trouve que c'est très dommage d'utiliser ça. Maintenant, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout simple en fait. C'est juste le fond qui me gêne. Mais c'est sympa d'avoir ce personnage-là, quoi.
Le personnage de Jason.
Oui.
Tu trouves ça sympa d'avoir le frère jumeau de Diana?
Ben ouais, je trouve ça, ouais, je trouve ça sympa. Je trouve que ça apporte un truc en plus, tu vois. C'est pas genre, puis le fait qu'ils aient dû l'éloigner par rapport à Themyscira, tout ça. Je trouve ça sympa. Je trouve que c'est un truc nouveau.
Ah, c'est sûr que c'est nouveau, mais enfin, je pense que je vivrais mieux Wonder Woman sans Jason.
Ah bah, chacun son avis, hein.
Bon, on s'amène.
Alors MF, c'est de la merde, mais est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est odorant?
Écoutez, moi je m'y connais vraiment bien en merde. j'en lis depuis les années 90, depuis Image Comics. À l'époque, j'achetais la série Youngblood, et c'était vraiment intéressant parce que c'était vraiment pourri de numéro en numéro. Et j'étais aussi fan de Todd McFarlane et de son écriture, et je pensais vraiment qu'il allait s'améliorer au bout d'un moment. Ça s'est jamais produit. Et ce que je peux vous dire, vraiment, c'est que pour être de la merde, c'est de la grosse merde. Enfin, Jason est aussi charismatique qu'une huître albinos qu'on aurait sorti de tout droit d'Avatar 2. Vous savez ce film de James Cameron qui est encore pas sorti et qui ne sortira peut-être jamais, puisque de toute façon, il a dit qu'il voulait en faire 26 suites. Donc non, désolé, c'est de la merde. Voilà, merci.
Oui, mais je suis un peu, enfin, je suis fortement d'accord. Mais en fait, de voir James Robinson faire ça, je trouve ça vraiment, enfin c'est vraiment, ça fait vraiment mal de voir James Robinson là-dessus, là où justement que c'est un, où tu sais que c'est un scénariste qui a énormément de talent.
Ça va, c'est pas Finch non plus.
Non, ouais. C'est mieux, c'est sûr.
Bah voilà.
Et... je croyais que justement tu disais que James Robinson c'était moins bon que Finch.
Non
que...
non, c'est mieux que Finch, c'est pas.
Oui.
J'essaie de rebondir un peu sur l'huître mal passée tout ça, mais putain, mais Finch avant quand même quoi.
Non, mais Finch j'ai c'est l'huître avarié.
C'est lui qui a été mangé, digéré et rechié, quoi.
Je l'avais oublié, Finch, et vous me l'avez rappelé.
Oui, donc maintenant, tu verras Robinson un petit peu différemment.
Ouais. Et donc, du coup, là, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est James Robinson, on le sait, qui veut venir chez DC, faire réaliser des projets chez DC. Mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as Geoff Johns, il a dit, OK, viens, bah faut que quelqu'un fasse évoluer ce que j'ai fait sur Dark Side War, là. Donc, tu vas faire ton truc, là, sur Wonder Woman, parce que Greg Rucka, il veut se barrer. Donc, tu fais ça là-bas. Et tu vas faire évoluer, ok, donc il fait évoluer, mais au final, on a une écriture correcte, mais des éléments qu'on a vraiment beaucoup de mal à accepter, et je sais pas comment on pourrait même l'accepter.
Bah moi je l'accepte, enfin, j'accepte,
quel genre...
ça me vient grand mot, mais c'est original, ça se lit, après, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi.
Ouais, ça c'est sûr.
Après, il faut attendre, peut-être cette tarte va faire des choses intéressantes au vu de ce qui a été annoncé.
Exactement.
Bah là-dessus, j'attendrai justement. Peut-être que c'est le prix à payer pour voir du vrai James Robinson sur Wonder Woman. Parce que James Robinson, c'était vraiment cool. Autant sur Superman et là, au risque de me faire attaquer. Sledgy, on en est où sur Strasbourg?
Alors, il y a 2-1 pour le PSG. On va revenir.
Ouais, je le sens pas quand même.
Comme si ça nous intéressait.
Ouais, mais oui, bien sûr, en fait, tu vois, c'est le fil rouge de notre podcast, dont j'ai fait seulement 2 reprises, mais ce n'est pas grave. Et c'était aussi pour faire une petite transition, comme quoi c'était la fin du podcast, et que on espère justement revenir assez rapidement pour un podcast news.
Oui,
et donc, vous allez dire au revoir. Et tu nous diras
score.
Le score dans les commentaires.
Et je vous parlerai aussi, parce que, oui, bonjour, Mystic You, ça ressemble à Harry Potter. Eh ben, s'il y a des gens qui se rappellent Amandine Malabule,
oui.
Eh bien, je vous salue. Voilà.
Ben, bonjour.
Et si on se rappelle Amandine du 38, est-ce que ça va ou pas?
Ça, c'est encore autre chose.
C'est... Non, je préfère Amandine Malabule.
Peut-être un prochain C4 crossover avec Amandine du 38 et Harry Potter.
Non, et sinon, pour ceux qui aiment Harry Potter, il va y avoir un jeu de rôle qui va arriver sur... sur mobile l'année prochaine, où justement on pourra aller à Poudlard.
Est-ce qu'il y aura Zatanna?
Ben non, on sera à Poudlard, patate.
Ah, ben ça sera un DLC.
Est-ce qu'il y aura Amandine Malabule?
Voilà. Bon, c'est
tout le monde sait qui est la meilleure sorcière, de toute façon.
Oui, c'est Mélusine.
Voilà, chaque réponse. Enfin, bref, on est en train de partir.
Sinon, il y avait Charmed qui était pas mal aussi avec des sorcières.
Non,
qui
c'était nul. Charmed.
Ah,
voilà. Franchement, Phoebe, c'était la mieux.
Ah, on est d'accord, Ahmed. Je suis d'accord avec toi.
Voilà. Non, mais on va arrêter de ressasser les douleurs fin 90, début 2000. Et on va dire au revoir et à un prochain podcast.
Salut.
Au revoir.
À plus.
je ne suis pas le numéro 2 de DC Planet pour rien, voyons.
La valise t'attend là où tu sais.
Ça, ça s'auto-suce sur le site.
Ah bah, sans trop newser, tu sais.
Ah bah ça s'auto-suce la news.
Déjà que Blue, depuis tout à l'heure, il m'envoie des vidéos, des...
Oula, attends. Quoi?
Ouais, non, mais tu sais, il y a Jake Gyllenhaal qui a fait du ASMR. Du coup, il m'a envoyé la vidéo.
Ça y est, on tient la scène backup, la scène post-générique.
C'était mon premier podcast.
Oui, oui.
J'étais un peu timide.
Oui,
mais il faut pas. On mange pas des gens, hein. Enfin, moi, du moins, je les mange pas. Je suis vegan.
Enfin, elle en mange seulement certains.
Non, je mange pas d'animaux.
Eh, tu m'as dit que Momo, il était à croquer.
Non, mais oui, à croquer, mais je mange pas, je croque, c'est pas pareil.